Bonjour et bienvenue pour notre exploration de l'actualité africaine. On se base aujourd'hui sur plusieurs articles d'Africa Press datés du 19 mai.
Oui, bonjour. L'idée, c'est de décrypter un peu les points importants, ce qui se passe en ce moment.
Exactement. On va toucher au sport, à la politique, à des questions humanitaires aussi. Essayer de comprendre certaines dynamiques clés.
Allez, on commence par le foot ?
Oui, une très bonne nouvelle pour l'Afrique du Sud.
Ah oui ?
Une première historique pour eux, la victoire à la CAN des moins de 20 ans, la CAN U20.
C'est ça. Ils ont battu le Maroc 1-0 en finale. C'était au Caire hier, le 18 mai.
Un match serré et un but un peu fou, non ?
Complètement. Marqué par Gomolemo Kekana, figurez-vous qu'il a d'abord été refusé pour hors-jeu.
Ah oui. Et c'est la VAR, l'assistance vidéo, qui l'a validé. Et ce qui est incroyable, c'est que ça vient d'une passe très très longue du gardien, Fletcher Smythe Lowe.
Incroyable. Et une belle revanche pour eux, parce qu'en 1997, c'est le Maroc qui avait gagné la finale contre l'Afrique du Sud.
Tout à fait.
Et puis ça confirme une bonne passe pour le foot sud-africain en général. Hein.
C'est vrai.
On se souvient la médaille de bronze à la CAN Senior 2024. Et puis le club Mamelodi Sundowns qui est en finale de Ligue des Champions africaines.
Donc une belle dynamique. Et les deux finalistes, Afrique du Sud et Maroc, iront au Mondial U20 au Chili cet automne.
C'est ça, le Nigeria a battu l'Égypte pour la troisième place d'ailleurs.
D'accord. Bon, on quitte les terrains de foot pour une histoire beaucoup plus poignante. Direction le Rwanda.
Oui, à un moment très fort, 30 ans après le génocide. Il y a 360 réfugiés rwandais qui sont rentrés de RDC, du Nord Kivu. Ils sont arrivés par Rubavu. C'est une partie des presque 2 millions de personnes qui avaient fui en 1994.
Et beaucoup d'entre eux étaient, retenus dans des zones difficiles d'accès, hein.
Exactement, des zones contrôlées par les FDLR. Ce groupe, il est lié aux auteurs du génocide. C'est ça qui est compliqué.
Donc ce retour, c'est une initiative du gouvernement rwandais.
Oui, ça fait partie d'un plan plus large. Il vise à rapatrier environ 2500 personnes au total.
On imagine l'émotion de ces retours après 30 décennies. Mais aussi les défis, non ? La réintégration.
Ah, c'est énorme. Surtout après avoir été si longtemps dans des zones liées au FDLR. Le gouvernement promet de l'aide, bien sûr. Logement, éducation, travail.
Mais concrètement, comment ça se passe sur le terrain, la réconciliation avec les communautés locales ? C'est souvent le plus dur dans ces situations.
C'est toute la question. Chaque situation post-conflit est unique. Mais là, avec l'ombre du génocide, la méfiance, reconstruire sa vie après tant d'années, souvent dans la précarité, ça dépendra beaucoup de l'accompagnement réel et puis de la volonté de tous, quoi.
Ces questions de déplacement, de sécurité, ça nous amène au Ghana, mais d'une autre manière. Une vague d'arrestations de migrants.
Oui, un chiffre assez impressionnant. Plus de 2000 migrants en situation irrégulière arrêtés à Accra le 16 mai.
2000 ? Et ils viennent d'où principalement ?
Surtout des pays voisins, Burkina Faso, Togo, Niger, Nigeria.
Et la raison officielle de ces arrestations ?
Les autorités parlent de sécurité nationale. Elles s'inquiètent de la mendicité qu'elles disent organisée. Et puis surtout, elles craignent l'infiltration terroriste.
Ce qui est directement lié à ce qui se passe au Sahel, j'imagine. L'instabilité, la violence djihadiste.
Ben oui, forcément. Les populations fuient ces zones et cherchent refuge au Ghana, qui est perçu comme plus stable.
Et ça met le Ghana dans une position difficile.
Exactement. Le dilemme classique, comment on gère la sécurité, qui est une préoccupation légitime, la pression migratoire, tout en respectant les droits humains et la solidarité régionale. C'est très compliqué pour tous les pays côtiers en ce moment, avec des frontières poreuses.
Un autre pays, un autre enjeu de sécurité majeur, la RDC. Une énorme réforme de la police est annoncée.
Oui, un plan sur 5 ans, 2025-2029. Et un budget colossal, 2,3 milliards de dollars.
Ah oui, quand même. Et la priorité, c'est quoi ?
Clairement, la professionnalisation, le recrutement et la formation de 90 000 policiers. Ça représente 72% du budget total. C'est énorme.
D'accord. Et le reste ?
Il y a environ 600 millions pour le renforcement institutionnel. Et puis, des mesures comme la mise à la retraite de 10 000 policiers, de nouvelles infrastructures, de l'équipement, ça aussi, ça coûte cher. Près d'un milliard.
Mais ce qui m'intéresse, c'est la part pour le dialogue police-citoyen.
Ah oui, c'est très faible. Seulement 51 millions de dollars. Moins de 3% du total.
Moins de 3%. Dans un pays où la police est souvent vue avec méfiance, où il y a eu des exactions, des réformes passées qui n'ont pas marché, c'est pas un peu paradoxal de si peu investir là-dedans ?
C'est le moins qu'on puisse dire. Mettre autant d'argent sur l'effectif et le matériel, sans vraiment prioriser la reconstruction du lien de confiance avec les gens, ben on risque de refaire les mêmes erreurs, hein.
Sans parler des questions de financement, est-ce qu'il sera vraiment là ? Et de la lutte contre la corruption au sein même de la police ?
Exactement. Ce sont de gros points d'interrogation qui restent.
On termine ce tour d'horizon en Tanzanie. Là, c'est la politique intérieure qui crée des tensions, même au niveau régional.
Oui, 3 Kenyanes ont été expulsés le 18 mai. Et parmi elles, une figure connue de l'opposition au Kenya, Martha Karua.
Expulsée ? Mais pourquoi était-elle en Tanzanie ?
Elles étaient venues en tant qu'observatrices pour l'audience d'un opposant tanzanien, Tundu Lissu.
Tundu Lissu, du parti Chadema, le principal parti d'opposition, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il est poursuivi pour trahison. En fait, il réclamait des réformes électorales.
Et Martha Karua, elle pense que c'est politique ?
Carrément. Elle dit que c'est une manœuvre pour écarter l'issue, pour le neutraliser avant les élections 2026.
Et ça arrive dans un contexte déjà tendu, où le Chadema a été écarté des discussions sur ces mêmes réformes électorales.
C'est ça. Ils ont refusé de signer un code de conduite. Donc, cette expulsion d'observatrices étrangères, surtout une personnalité comme Karua...
Ça envoie un message assez négatif sur l'ouverture politique sous la présidente Samia Suluhu Hassan, non ?
Assurément. Ça inquiète sur l'équité du procès de l'issue, bien sûr, mais plus largement sur l'espace démocratique en Tanzanie et sur l'image du pays à l'international.
Les défenseurs des droits humains et le Chadema ont condamné, j'imagine.
Oui, bien sûr. Alors, quand on met tout ça bout à bout...
C'est un tableau très contrasté.
Exactement.
On a la fierté sportive en Afrique du Sud, la gestion très lourde du passé au Rwanda, les défis migratoires et sécuritaires liés aux crises régionales au Ghana et en RDC, et puis ces tensions politiques en Tanzanie.
C'est vraiment une mosaïque complexe, l'Afrique aujourd'hui.
Et ça amène une dernière réflexion peut-être.
Oui.
Au-delà des réponses qu'on voit là, une grosse réforme de la police ici, l'accueil de réfugiés là, un procès politique ailleurs, comment toutes ces choses, la sécurité, la politique, les migrations, la mémoire du passé, comment tout ça s'influence vraiment ? Et au fond, est-ce que ça ne redéfinit pas le contrat entre les États et leurs citoyens sur le continent ?
C'est une excellente question, hein. Comment ces fils s'entremêlent et quel tissu social et politique ça dessine pour l'avenir ? C'est sans doute là le vrai sujet.